Et si on passait à l'ouest ?
Malo, jeune herboriste, décide de suivre les traces de son père, décédé, afin de faire son deuil. Son voyage se transformera en réelle quête identitaire, durant laquelle des rencontres feront vaciller ses convictions et changer de regard sur le monde, sa nature et les gens qui le peuplent. Et derrière ce conte politico-poétique sous forme de roman graphique, Là où dorment les géants, sorti le 11 avril, c'est Morane Mazar, autrice française, qui nous fait le plaisir de vivre à Genève et d'être là ce soir. Salut Morane.
Salut.
Alors, l'exercice va pas être facile, du coup c'est pour ça que c'est pas moi qui vais le faire, mais on est à la radio, donc les gens voient pas forcément ce que tu fais en termes visuels. Est-ce que tu peux décrire un peu le style Morane Mazar ?
J'ai vraiment, effectivement, même avec l'image, j'aurais du mal à décrire. J'ai l'impression que je suis au confluent de plein de choses, dans le sens où moi j'ai vraiment grandi avec la, enfin en tant qu'enfant et adolescente, avec la BD franco-belge, puis des mangas et des comics, et ça m'a appris à dessiner d'une façon assez spécifique que je m'évertue à casser depuis des années. Donc disons que si vous regardez mes storyboards, vous voyez toutes mes références de dessins assez, enfin manga, comics à la ligne, enfin au trait quoi. Et puis après j'ai tout un processus pour que on voit, pour cacher tout ça.
Il y a quelque chose de très coloré et de très fluide dans
voilà,
ce que tu fais.
C'est avec même... des couleurs, du coup.
C'est très reconnaissable. Là où dorment les géants, c'est ton troisième livre. Avant ça, tu as fait Acouphène en 2017, qui a été primé au prix Topfer. Tendes en 2020, prix Raymond Leblanc. Est-ce que ce nouveau roman, ça s'inscrit dans ce que tu as fait jusqu'à là ? Est-ce qu'on retrouve des thématiques communes, des schémas narratifs, des univers qu'on connaissait chez toi ?
Alors, tout à fait. Du coup, c'est mon troisième livre solo, mais c'est mon quatrième livre, enfin en tout, mais bon, peu importe. Et effectivement, sur mes livres solo, la thématique toujours, c'est la question de l'identité. En fait, j'ai l'impression que tous mes livres sont des quêtes identitaires, et mes prochains projets solo sont aussi des quêtes identitaires. Donc je pense que genre ça va vraiment être tourné autour de son nombril jusqu'à la fin des temps, mais à chaque fois il y a des sous-thèmes qui sont différents, mais on est quand même avec toujours en, je pense, un sous-thème politique ou des problématiques assez contemporaines qui, en fait, sont rarement contemporaines, mais sont plutôt sociétales.
Justement, il y a beaucoup de thématiques qui sont repérables dans ce roman. Enfin, je vais en laisser quelques-unes, mais on peut en voir plein, selon sa sensibilité aussi. Mais il y a le rapport à la nature, il y a la sororité, le deuil, la colonisation, les violences sexy-sexuelles. Alors, ça reste un conte. C'est pas sombre, faut pas croire ça, mais t'avais beaucoup de choses à dire, non ?
Oui, alors c'est toujours le grand défi, c'est de devoir, enfin, réussir à se condenser, ou plutôt réussir à revoir ses attentes à la baisse. Enfin, en fait, on va pas réussir à faire l'œuvre parfaite, on va jamais réussir à parler de tout ce qu'on veut, et donc là, pour ce livre, ça a été l'apprentissage d'être ok avec le fait de pas aller au bout de toutes mes pistes, et ce qui est très spécifique au conte. En fait, dans le conte, on explique pas forcément tout. Enfin, si on lit un conte et qu'à un moment il y a un personnage fantastique qui arrive avec, on dit, je sais pas, et là un cavalier tout rouge avec un cheval violet arrive, personne se pose la question, ah oui, c'est qui, d'où il vient. On est ok en fait avec ce contrat entre l'auteur et le lecteur.
Et le conte, du coup, pour toi, c'est un format qui te permet plus de liberté, c'est pour ça que tu as choisi ça?
J'ai choisi le format du conte parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en tant que lectrice, et c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, que je lis toujours. Ce livre, c'était un peu un hommage à tout ce qui m'a nourrie en tant qu'enfant et qu'adolescente en termes de lecture, de films, de culture, quoi. Et en fait, j'avais envie d'essayer, et en fait, c'était horriblement dur, et j'en referai pas d'ici tôt, parce que le fait d'avoir cette liberté de pouvoir tout créer soi-même, pour moi, c'était extrêmement anxiogène. Donc je préfère avoir la structure d'une histoire plus ancrée dans l'histoire, je crois.
Et comment ça se passe, justement? On a parlé des thématiques que tu évoques dans ce livre. Dans le process, est-ce que tu pars de ces thématiques et tu dis, je vais en faire quelque chose, ou tu as d'abord ton histoire, ton conte, et t'intègres un peu tout ça?
Plutôt j'ai d'abord une thématique principale, et après il y a des choses qui viennent au fur et à mesure de l'écriture. L'écriture, c'est toujours la première phase pour moi. Il y a des gens qui dessinent tout au long du processus, et moi c'est vraiment un gros moment d'écriture, et c'est le plus long d'ailleurs.
Et ton thème principal là, c'était lequel?
C'était vraiment la question, enfin la petite phrase d'origine, c'était vraiment cette question du nombril qui a disparu, et de partir à sa recherche. Donc le
qui,
rapport
au final,
au père
arrive assez tard dans l'histoire.
Oui, je voulais que cette BD reste assez contemplative, parce que l'autre pensée à l'origine du projet, c'était que j'étais dans mon petit appart parisien pendant le confinement et que j'avais envie de voir de la nature. J'avais envie de sortir et je voulais dessiner des paysages et avoir des moments de contemplation. Donc voilà, je voulais pas tout de suite qu'on parte dans la quête.
On parlait de la nature et du fait que tu avais eu envie de dessiner cette nature pendant le Covid. Et c'est vrai qu'il y a une énorme place à cette nature, au lieu. Il y a un découpage géographique dans le livre. Comment tu as travaillé ça? Parce que tu as dû quasiment créer un univers pour chaque chapitre, pour le dire rapidement. Il y a beaucoup de recherches pour créer ces mondes.
Alors justement, c'est ce que j'expliquais juste avant, que c'était très anxiogène pour moi de devoir créer tout un monde, parce que... Enfin, quand tout est possible, ça pourrait toujours être mieux. Et en fait, ce qui m'a fini par m'apaiser, c'est travailler sous forme de collage, en fait, de faire une espèce d'immense collage de toutes mes inspirations, de travailler d'après des photos que j'ai prises au fur et à mesure de mes balades, et en fait, de pas me poser la question de la justesse et de juste plaquer ça ici, là. Et du coup, de travailler avec un processus un peu plus spontané, je dirais, un peu plus organique, ce qui demande de se faire confiance. Ce qui est terrifiant aussi, mais donc voilà, c'était assez vulnérable comme processus. Et...
et quel univers t'as préféré créer?
Le marécage. Le marécage, pour la végétation et aussi pour la palette colorée, parce que j'avais envie de travailler le violet, qui est la couleur que j'aime le moins, et du coup je me suis dit, allez, on se force un petit peu.
Du coup, c'était aussi le plus difficile ou...
Non, en fait, c'était super, maintenant je vais mettre du violet partout.
Pour le reste du process, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Il y a pas mal de personnages qu'on voit plus ou moins longtemps, qui sont très divers et variés. Là encore, comment tu travailles? Est-ce que tu crées une histoire pour chacun de ces personnages, peu importe ce que tu vas en faire dans le livre? Comment ça se passe, la création de ces êtres? Parce que c'est des êtres.
Alors effectivement, l'idée, c'était de créer des personnages secondaires qui sont assez complets. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie, moi, en tant que spectatrice, en tant que lectrice. Ce qui est très compliqué, parce que je les crée surtout les premières phrases que j'ai dans ma tête par rapport à elles et eux, c'est en quoi ils vont servir à mon héroïne. Donc il faut outrepasser ça et en faire des personnes complètes, enfin, dans la mesure du possible. Et c'est aussi pour ça que je voulais mettre... À chaque rencontre, Malo laisse quelque chose à ces personnes, et donc c'était un peu voilà, qu'est-ce que ces personnages vont apporter à mon héroïne, et qu'est-ce que le, enfin, et un rapport de réciprocité. Mais oui, je pense que c'est très important dans la culture populaire, enfin dans la culture tout court, dans la fiction, de créer des personnages entiers, quels qu'ils soient, que ce soit des personnages secondaires, que ce soit les personnages principaux, que ce soit des femmes, des hommes, des personnages non binaires, juste qu'ils soient pas la personnification d'une seule idée, qu'ils soient un ensemble de choses.
On pourrait les retrouver, ces personnages, dans une suite des spin-offs. Est-ce que tu as envie de les réexploiter?
Il y en a que j'ai sous-exploité. Par exemple, il y a un petit clown, le clown le plus triste du monde. J'aurais bien voulu le dessiner plus, mais bon. Mais la fin est relativement ouverte, donc
c'est pour
pourquoi
ça que je pose
pas
la question.
Une suite? Oui, on verra. Là, j'ai besoin de souffler. Et après, peut-être qu'on reviendra découvrir le reste de cet univers.
Pour se rendre compte, t'as besoin de souffler, parce que c'est quand même une bande dessinée de 184 pages. Ça représente combien de temps de travail?
Alors, bon, j'ai en tout 4 ans. Dont bien 3 ans d'écriture et 1 an de dessin, à savoir que vraiment, comme j'ai dit, l'écriture, elle a été difficile, et donc j'ai recommencé, et puis c'était pas à temps plein, bien sûr, parce que bon, on sait qu'elle est, enfin, moi j'ai pas à me plaindre à ce niveau là mais bon, je peux quand même pas vivre à temps plein de mon travail, et enfin surtout pas en vivant à Genève. Mais bon, ça c'était ma décision, hein. Voilà, je suis pas à temps plein sur le livre, j'ai fait d'autres choses à côté, mais enfin voilà, je dis ça en tant que porte-parole entre guillemets, mais je suis vraiment pas la plus à plaindre.
Tu parles un peu de tes références tout à l'heure de cette BD franco-belge. Là, il y a clairement un côté heroic fantasy. C'était quoi tes références en heroic fantasy pour créer ce conte?
Alors, l'heroic fantasy, c'est quelque chose avec lequel j'ai un rapport rapport, pas d'amour-haine, mais un peu suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, où il y a des choses que j'apprécie, qui dans le registre heroic fantasy, mais c'est jamais pour les registres heroic fantasy. Ça me vient de mon père, qui était un grand fan d'heroic fantasy, de culture celte, etc. Et je dirais que ma référence principale, mais qui est vraiment infusée dans ce livre, c'est Zelda, parce que je suis une grosse fan de Zelda depuis mes 8 ans. Et je raconte souvent l'émotion de découvrir Ocarina of Time pour la première fois, elle est assez inégalée dans ma vie en fait, de découvrir cet univers qu'on peut explorer au travers d'un personnage, enfin, vraiment à travers de ses mouvements, etc., de découvrir des créatures, des géographies, c'était vraiment, enfin, pour moi c'était absolument bouleversant. Et je pense que c'est, en termes de fantasy, c'était ma porte à moi, indépendamment de mon père.
Et c'est un genre que t'as envie de continuer d'exploiter à l'avenir ?
Non.
C'était une incursion et c'est fini ?
Oui, en fait, j'essaie de... C'est pas la fantasy qui m'intéresse spécifiquement, mais c'est plutôt les cultures populaires et folkloriques à travers le monde. Mais là, vraiment, avec ce livre, je me suis... Et aussi depuis que je suis de retour en Suisse, je me suis vraiment beaucoup intéressée aux cultures pré-chrétiennes européennes, ce qui sont les petites graines de mon prochain projet. Mais bon. En fait, toute la magie qu'on va chercher en tant qu'Européens, enfin en tant qu'Occidentaux, dans d'autres cultures, je pense notamment au succès de Miyazaki pour son approche de la nature de façon magique, en fait, on peut le retrouver si on s'intéresse à nos propres cultures, mais avant les monothéismes. Enfin, il y a des choses complètement magiques, folles et cathartiques. En Suisse, il y a un immense patrimoine traditionnel. D'un canton à l'autre, en termes de costumes, de traditions picturales aussi. Enfin, c'est vraiment... c'est ça ma plus grosse inspiration, plus que la fantasy même, je dirais.
C'est noté pour les prochains. Tu parlais de la difficulté aussi de vivre de ces bandes dessinées, de ton métier. Est-ce que ça a été compliqué de te faire éditer pour Là où dorment les géants ?
Non, alors encore une fois, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai participé au prix Raymond.
Beaucoup de talent.
Merci beaucoup.
Aussi quand même.
Oh là. Mais j'ai participé au prix Raymond Leblanc avec mon projet de master. Donc Tants, et j'ai gagné le prix Raymond Leblanc, donc il y a un prix dont le prix, c'est très répétitif comme phrase, et une certaine somme d'argent, plus un contrat d'édition chez l'un des éditeurs qui encadre ce prix, de nouveau. Et donc j'ai eu la chance d'être édité par Le Lombard à la suite de ce prix. Et c'est pas drôle comme jeu, pardon. Donc j'ai été éditée par Le Lombard et en fait ça se passe très bien et ils ont cru en ce projet, petit clin d'œil pour Camille Monard qui a cru en ce projet et moi tant qu'ils veulent de moi je reste chez eux parce que je suis un petit coq en pâte.
T'as un accompagnement quand tu sors tes bandes dessinées, des retours, t'es aidée ?
Oui, j'ai une éditrice avec moi du début à la fin. Il y a des graphistes aussi pour la conception du livre en lui-même. J'ai eu la chance d'assister à l'impression de mon livre, donc j'ai même vu toutes les machines. Enfin, c'était magique, vraiment. C'est une très bonne équipe.
Et le livre est sorti le 11 avril. Est-ce que là, il y aura des événements autour ? Est-ce que tu vas le présenter à certains endroits, des signatures ?
Et bah absolument. Et d'ailleurs, la suite de la, entre guillemets, tournée, elle est essentiellement suisse, puisque je serai à Delémont BD, je serai à BDFIL. Et pour Genève, on fait un lancement le 29 mai à Cumulus.
Splendide. Les dates sont notées. Merci beaucoup, Morane. On souhaite une belle suite à Là où dorment les géants. Et à bientôt.
Merci à toi.